Chapitre 36. Lors de sa formation d'escrimeur sur le rendeur des vagues, le jeune Bannon, tout juste sorti de l'œuf, avait appris à se battre convenablement. Sur le pont du navire, Nathan lui avait montré ce que ça voulait dire. Dans ses rêves les plus fous ou ses cauchemars, il n'avait jamais envisagé d'affronter tant d'ennemis. Eh bien, il s'était trompé. Alors qu'il courait parmi ses frères d'armes, le jeune homme se rappela que l'objectif ce soir était strictement délimité. Une petite partie du camp et rien de plus. Bref, une mission loin d'être impossible. Pourtant, il y avait un hic. Dans des circonstances normales, les soldats d'Outros auraient déjà été des adversaires redoutables. Là, ils étaient résistants comme la pierre. Près de Bannon, Lila fonçait sans se poser de questions. Disciplinés et entraînés, les hommes de pierre se déployaient selon les règles de l'art militaire. Plus brouillon, les guerriers d'Ildakar transformaient ces belles manœuvres en indescriptibles mêlées. En un sens, c'était leur chance, car ils entraînaient leurs adversaires sur leur terrain. Du coup, leur charge désordonnée avait fait voler en éclats la première ligne de défense. Depuis, la bataille avait explosé en une multitude de corps à corps. Sa massue dans la main gauche et solide dans la droite, Bannon para au dernier moment un coup qui lui aurait au bas mot coupé un bras. Alors que l'onde de choc remontait jusqu'à son épaule, il serra les dents, continua à bloquer la lame adverse et abattit sa massue sur le torse du guerrier. Sans faire beaucoup de dégâts, la manœuvre força quand même le type à reculer de deux pas. Contre-attaquant, Bannon entailla le cou du soldat de pierre. Sur un homme normal, la tête aurait volé dans les airs. Là, un liquide épais suinta de la plaie et l'homme s'écroula. Un bon résultat en soi, non?
« Bien joué, mon gars !» lança Lila avec un sourire féroce. « Recommence une vingtaine de fois et nous serons sur la bonne voie !»
Sifflant de rage, elle bondit en avant, une massue dans chaque main. Du coin de l'œil, Bannon ne put s'empêcher d'admirer les muscles qui se tendaient et se nouaient sur le dos et les jambes de la Moracite. Comme une danseuse, elle virevoltait, semant la mort sur son passage. Mais les renforts ennemis continuaient d'affluer. Thorn, Genda, Richia et les autres Moracites sélectionnaient des cibles puis les taillaient en pièces. Face à de telles tueuses, les corps de pierre des soldats d'Outros n'avaient plus rien d'un avantage parce qu'ils les ralentissaient. Comme des vipères, les Moracites bondissaient en avant, frappaient, puis se retiraient, laissant leurs adversaires sensibles. Leur extraordinaire balai inspirait bien entendu les gladiateurs qu'elles avaient formés à la dure dans les fosses de combat. Alors qu'elles faisaient des ravages dans les rangs ennemis, Lila tourna brièvement la tête vers Bannon.
« Colle-moi au basque, mon gars. Moi, je les mets en piteux état et toi, tu les achèves. » « Plus facile à dire qu'à faire !»
souffla Bannon en défonçant le crâne d'un antique guerrier avec sa massue. Son bras droit lui faisait déjà un mal de chien. Rien d'étonnant quand on cognait comme un sourd sur de la pierre. Épaule contre épaule, Jed et Brock se battaient avec une maladresse affligeante. Si leur soierie les protégeait pour de bon, les couleurs vives attiraient les adversaires. Du coup, harcelés de toutes parts, ils combattaient pour survivre sans aucun plan précis. Timothy, lui, s'en donnait à cœur joie. À l'exercice, on lui avait appris l'escrime, mais il semblait plutôt né pour jouer de la massue, et il le faisait avec un enthousiasme communicatif. Cerise sur le gâteau, les hommes d'Outreau semblaient surpris d'affronter un type qui avait le même teint qu'eux. À la tête de la garde, la seule unité disciplinée de l'armée d'Ildakar, le haut capitaine Stuart beuglait des ordres comme à son habitude. Soufflant dans sa corne, un de ses hommes, assurant la cohésion du groupe, rappelait à lui les combattants en uniforme chaque fois qu'ils se dispersaient trop. Dans le vacarme des cris et des armes, Bannon finit par perdre le contact avec Lila et ses sœurs. Contraint de se défendre sans cesse, il dut bloquer le coup d'un guerrier barbu armé d'une lame incurvée. Se dégageant, l'homme lui offrit une ouverture qu'il saisit, mais son estoc au ventre eut autant d'effet qu'une piqûre d'insecte. Alors que le barbu levait son arme pour porter le coup de grâce, Timothy se matérialisa dans son dos et lui fit exploser le crâne. Tandis que le type tombait à genoux, l'ancien berger salua Bannon d'un geste nonchalant.
« À charge de revanche, l'ami »
lança-t-il. Sans se laisser déconcentrer, le jeune escrimeur, pour plus de sûreté, décapita son adversaire malheureux. Dans ce tourbillon de violence, de douleur et de rage, Nietzsche et les sorciers d'Ildakar, toujours en tête de leurs troupes, bombardaient l'ennemi d'éclairs et de points d'air. Dans un autre secteur du champ de bataille, Nathan et Elsa continuaient à embraser les versants de collines et leurs manœuvres commençaient à porter ses fruits. Du coin de l'œil, Bannon vit passer une silhouette familière. Toute griffe dehors, Mara,
bondit sur un soldat de pierre, lui arracha la tête sans effort, puis évita les coups d'un petit groupe d'adversaires. Une fois passée sous leur garde, elle griffa et mordit, entaillant la chair dure de leurs bras et de leurs jambes. Un instant, les regards du fauve et du jeune escrimeur se croisèrent. Puis le flot de la bataille les entraîna loin l'un de l'autre. Verts de peur, Jed et Brock combattaient désormais dos à dos. Timothy dépassa Bannon et chargea deux colosses adverses. Se croyant invincible, une erreur de débutant, l'ancien berger frappa avec ses massues. Esquivant sans peine, les deux soldats de pierre passèrent ensuite à la contre-offensive. Contraint de reculer, Timota cessa de sourire bêtement.
« Attention !» lui cria Bannon. « Ils sont trop forts pour toi !»
Au lieu d'écouter, Timothy fonça comme un taureau furieux.
« Pourri le Dakar !»
Alors que l'ancien berger s'acharnait sur le bras d'un des colosses, l'autre en profita pour le frapper au flanc. Grâce à sa peau anormalement dure, Timothy sentit à peine le coup. Hélas, ses adversaires aussi étaient blindés. Dans son dos, un troisième homme frappa le berger à la tête du plat de son arme. Sonné, il tituba. Redoublant d'ardeur, Bannon tenta de se débarrasser au plus vite de son adversaire actuel, histoire de pouvoir voler au secours de son ami. Mais le gars qui lui faisait face ne l'entendit pas de cette oreille. Plutôt doué, il multipliait les coups vicieux, forçant le jeune escrimeur à se concentrer pour rester en vie. Avec ses deux massues, Timothy parvint à tenir ses adversaires à distance, jusqu'à ce qu'un quatrième s'en mêle. Cerné et mal en point, l'ancien berger céda peu à peu sous la pression. Au bout du compte, l'inévitable se produisit. D'un coup de sa masse d'armes, un des guerriers lui brisa le bras. Pétrifié ou non, la peau ne résista pas et l'os craqua sinistrement. Les hommes d'Outreau se relayèrent pour marteler leur proie de coups. Projeté à terre, une épaule en bouillie, Timothy lança un dernier cri.
« Pourri le Dakar !»
Son adversaire enfin mis hors d'état de nuire, Bannon oublia ses poumons en feu et ses membres en capilotade.
« Timothy !»
cria-t-il, volant au secours du berger. À genoux, le jeune homme n'avait plus la force de lever ses massues. Impitoyables, ses quatre bourreaux continuèrent à le tabasser. Bannon arriva trop tard. Pire encore, il se retrouva lui aussi cerné par des colosses. Désespéré, il regarda devant lui et vit que Lila et les autres Morassites, trop loin pour l'entendre, étaient toujours plongés dans leur folie meurtrière. À tout hasard, il appela son ami, mais sans résultat. Jed et Brock aussi étaient encerclés. À l'évidence, l'heure de gloire des partisans d'Île Dakar était passée. Et si beaucoup d'hommes d'Outreau se gisaient dans la poussière, plus de la moitié des frères d'armes de Bannon étaient tombés. En grand stratège, le général avait attendu que la situation s'équilibre pour passer à la contre-attaque. Déboulant de l'autre moitié du camp, des renforts par milliers repoussaient les assaillants. Faute d'une meilleure option, Bannon alla se camper près de Jed et de Brock. Avec des partenaires pareils, comprit-il, il n'aurait pas la moindre chance. Oubliant la douleur et la fatigue, il dut se rendre à l'évidence. Pour lui, cette bataille aurait été la dernière. En hommage au panache de Timothy, il cria à tue-tête
« Pourri le Dakar ! Pourri le Dakar !»
Terrifiés, Jed et Brock frappaient à l'aveuglette avec les armes qui leur avaient servi quelque temps plus tôt à démolir des statues incapables de se défendre. Comme de juste, ils ne reprirent pas le cri de guerre de Bannon. Alors que se déversait dans son sang le feu liquide qui le transformait en machine à tuer, Bannon se jura de lutter jusqu'à la dernière seconde. Puis il cria de rage et se laissa emporter par l'ivresse amère du combat.
Bon, ben on va faire une pause.